silencio.
Haced algo, por favor.
¿Qué pasa?
Arthur.
Cámara.
Hanzai de esta. ¿Dónde está?
Odisea 14702 prima.
¿Qué es el
Motore.
Bonjour à tous, la grande table spéciale Cannes, troisième. Il n'y a pas que la parité qui fasse débat ici. La diversité, ou plutôt l'absence de diversité dans le cinéma mondial, pose aussi question. Alors quand on est femme et noire, la double peine.
Comme beaucoup des actrices du livre, j'ai découvert que la couleur de ma peau était une donnée extrêmement importante et peut-être même que c'était la donnée la plus importante de toutes. Et j'ai oublié la question.
La double peine.
Je veux pas.
Rendez-vous à 12h55 avec l'actrice Aïssa Maïga pour son livre Noir n'est pas mon métier. Autre figure libre et noire sur le tapis rouge cette année, Ryan Coogler, le réalisateur du film événement Black Panther, invité à Cannes pour une masterclass, nous l'avons rencontré. Et Spike Lee en compétition officielle avec Black Klansman, compte rendu à suivre dans la séquence des critiques autour de 13h15. Mais d'abord, l'acteur Vincent Lindon sur tous les fronts.
France Culture, la grande table, en direct du 71e Festival de Cannes. Olivia Gesbert.
L'acteur Vincent Lindon à Cannes pour défendre une cause, l'emploi et surtout un film en guerre de Stéphane Brisé, un drame social en salle aujourd'hui. Prix d'interprétation masculine à Cannes il y a 3 ans. Il est le premier invité à retrouver après le journal d'Antoine Guillot sur France Culture dans la grande table. Midi 3, c'est effectivement votre journal. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia.
On est mercredi et à J-3, vous connaissez déjà la Palme d'Or. Yes, les cris de joie de la réalisatrice Nadine Labaki apprenant la sélection en compétition officielle de son film Capharnaüm. C'était le 12 avril dernier. Des cris que la réalisatrice s'apprête peut-être à reproduire samedi soir dans le Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals, puisque la Palme d'Or 2018, c'est elle.
Et la Palme d'Or 2018 est attribuée à Capharnaüm de Nadine Labaki, si on en croit les rumeurs cannoises, car Cannes est une grande terre de rumeurs. C'est un peu comme le film de David Robert Mitchell qu'on a vu ce matin, Under the Silver Lake. La paranoïa, la tentative de décrypter des signes agitent tous les spectateurs à Cannes, d'autant que les files d'attente étant assez longues parfois, on a tout loisir d'en discuter. Alors, quels signes on peut décrypter? On regarde le jury, par exemple, pendant les projections. Est-ce qu'il s'est endormi? Est-ce qu'il s'est levé pour aller aux toilettes? Est-ce qu'il a longuement applaudi? Et puis, on fait des analyses du jury. Alors, comme cette année, on en parle beaucoup, c'est le premier Cannes post-affaire Weinstein, on ne parle que de la parité et du tout petit nombre de palmes d'or cannoises. Il est évident pour tout le monde que la palme d'or ira à une femme cette année, donc ce qui réduit déjà considérablement le nombre, puisqu'il n'y a que 3 femmes en compétition. Le film d'Eva Husson n'ayant pas fait pour le moins l'unanimité, le film très beau d'Alice Rohrwacher, l'italienne, ayant partagé, il reste un film, et ce film c'est celui de Nadine Labaki, Capharnaüm. Or il se trouve qu'il fait un tabac au marché du film. Les distributeurs de tous les pays font de la surenchère pour en acquérir les droits. Donc c'est évident, ça va être Capharnaüm de Nadine Labaki, Palme d'Or, un film qu'on n'a pas encore vu, nous, puisqu'il ne sera projeté que demain.
Il n'y a même pas d'extrait encore en ligne sur Internet. Bon, bah, on lui souhaite, et puis surtout on va d'abord voir le film où vous allez le voir et vous nous en reparlerez, Antoine. Autre actualité cannoise plus sérieuse, le combat des cinéastes portugais.
Alors les cinéastes portugais, Cannes a fait beaucoup pour le cinéma portugais. Vous savez qu'on a vu quasiment tous les films de Manuel de Oliveira ici, et de João Pedro Rodrigues, Manuel Gomes et d'autres sont toujours présents à Cannes. Cette année, ils sont un peu plus discrets, mais ils sont là. Il y a 7 films, mais pas un seul en compétition. Alors qu'est-ce qu'il se passe pour le cinéma portugais? Le cinéma portugais souffre d'un grand problème de financement, et je parle en particulier du cinéma d'auteur portugais. Teresa Vilaverde, la grande cinéaste dont on a vu un film projeté ici ce week-end, c'était Colo, un film qui avait été auparavant présenté au Festival de Berlin, explique que dans le cinéma d'auteur portugais, le grand talent du réalisateur, c'est de faire une omelette sans œufs, c'est-à-dire sans argent, ce qui donne un cinéma souvent assez radical et très intéressant. Mais pourquoi n'a-t-il pas d'argent? Il y a pourtant une loi du cinéma qui a créé un équivalent du Centre National de la Cinématographie Français, ça s'appelle l'ICA, l'Institut du Cinéma et de l'Audiovisuel, qui organise des sortes de concours de scénarios dans lesquels il y a donc des jurés qui votent. Et tout le problème, c'est les jurés. C'est-à-dire que l'ICA, donc le CNC portugais, plutôt que de décider eux-mêmes qui seraient les jurés, ils ont laissé les chaînes de télévision et les opérateurs télécoms décider qui seront les jurés. Et qu'ont-ils fait, ces gens-là? Eh bien, ils ont nommé des gens d'opérateurs de télévision et de télécom. Imaginez qu'en France, ce soit TF1 et Canal+ d'un côté, puis Orange, par exemple, qui décident à qui on va donner de l'argent. Alors évidemment,
on va donner de l'argent à des films
susceptibles de rapporter, puisque tout ça est financé par une taxe. Donc les réalisateurs se plaignent beaucoup et ont organisé une rencontre à Cannes cette année. C'était lundi pour expliquer et demander un soutien international pour que les choses changent enfin au Portugal.
Merci beaucoup Antoine Guillot. Je vous dis à demain. On sera de retour à Paris, quant à nous, mais on compte sur vous jusqu'à lundi pour nous faire vivre les derniers temps forts de cette 71e édition.
France Culture. Can I read? La Grande Table, spécial Cannes. And you? Olivia Gesbert. You're in this life for
good. Je m'appelle Olivia, et vous?
C'est pas Vincent. C'est pas mal aussi, c'est très doux dans l'oreille. Oui, moi je pense que il y a rien de plus sensuel que les voix. Au cinéma, parfois, quand vraiment, vous savez, il y a des combos, c'est une petite télévision, on peut, après la prise, on peut aller vérifier la prise, voir si elle est bien ou pas bien. Quelquefois, quand j'ai un vrai doute, je ne vais pas au combo, je vais voir l'ingénieur du son, et j'écoute la prise au casque, sans voir l'image. Et si ça passe au son, c'est fini, c'est que ça passe. Tout cas, si la voix n'est pas là, si elle n'est pas posée, et, c'est foutu.
Une voix et un corps social. Le film du jour est sans conteste En guerre de Stéphane Brisé, présenté hier en compétition et en salle partout en France aujourd'hui. Un film politique et un film coup de poing qui nous montre les mécanismes d'une grève dure, celle d'ouvriers dont le site va fermer et qui se battent sur tous les fronts, économiques, politiques, médiatiques, pour sauver leur emploi et faire respecter les promesses non tenues. Emmené par un Vincent Lindon transformé en leader syndical et entouré d'acteurs non professionnels, à voix haute, rencontre tout de suite avec l'acteur Vincent Lindon.
On s'expose à quoi? Un renvoi pour faute lourde, parce que tout d'un coup on veut conserver notre boulot. On s'expose à un renvoi pour faute lourde. Mais monsieur, Bordery,
il y a un entrave à la liberté du travail. Ça c'est un droit fondamental.
Parce qu'on veut garder notre boulot, il y a une entrave à la liberté du travail. Vous n'avez pas tenu vos accords. Si vous aviez tenu vos accords, si vous aviez tenu votre promesse, on n'en serait pas là, monsieur Bordery. J'ai pas de leçon à recevoir de vous. Et ni deux, j'ai pas de leçon à recevoir de vous.
On vous a déjà expliqué. Vous vous exposez à de lourdes sanctions. Il y a une décision de justice. Point barre.
Vincent Lindon, bonjour.
Bonjour.
Quatrième collaboration avec Stéphane Brisé, la dernière ayant été couronnée d'un prix d'interprétation masculine à Cannes pour votre rôle dans La Loi du marché. C'est un cinéaste qui continue à vous surprendre.
Oui, il continue à me surprendre pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression qu'on va à l'inverse des duos ou des couples dans la vie. On peut pêcher dans un duo de cinéma ou un duo artistique quel qu'il soit ou dans un couple par habitude à devenir de plus en plus complaisant, s'excuser de plus en plus de choses, être de plus en plus fan du travail de l'autre, et ce qui fait que le niveau baisse. Et très bizarrement, mais c'est pas d'ailleurs très bizarrement, c'est recherché, on fait en sorte que avec Stéphane, je n'ai jamais été autant en inconfort dans ce film-là que je l'ai été dans les trois précédents. Il n'a jamais été aussi exigeant et dur avec moi qu'il ne l'a été dans les trois précédents. Et en fait, il n'y a aucune complaisance. Dans le premier film, de temps en temps, il prenait le temps de me faire un compliment, de me dire « Franchement, là, c'est bien, ça m'épate. » Le deuxième, un peu moins. Le troisième, un peu moins. Là, plus du tout. On a tourné le film en 23 jours, c'est exprès, il voulait qu'on soit dans le même niveau d'instabilité, d'intensité, de guerre, de d'effervescence que les gens qu'on allait filmer, dont moi d'ailleurs, puisque je suis dans le groupe, de ces gens qui font un piquet de grève, de ces gens qui sont en guerre, de ces gens qui se battent pour conserver leur travail. Et ça aurait été ridicule de nous être en tant que cinéaste ou équipe de cinéma dans un confort pour filmer une situation qui est extrêmement sur la braise.
Dans le film, à un moment, le grand patron allemand dit « J'applique les règles de ce monde ». Il le dit un peu cyniquement, mais il le dit aussi presque assez sincèrement. Ce film, il aurait pu s'appeler au hasard « La loi du marché », mais je crois que le titre était déjà pris.
Oui.
Du coup, le film s'appelle « En guerre ». Être en guerre, mais contre qui? Être en guerre contre quoi?
Mais en guerre, c'est pas la guerre. En guerre, c'est dès qu'on met le mot « en », c'est un mouvement. En guerre, c'est ouvriers, c'est ces salariés qui se battent. Dès qu'on se bat, on est en guerre, on est en lutte. Mais lutte devient un mot très syndicaliste. Il ferme le film, puisqu'il est question de ça. C'est très exclusif. Et la phrase que vous venez de relever, qui est très intéressante, qui j'applique les règles de ce monde. Il y a règles et règles. C'est très bien qu'il y ait des règles et des lois. C'est formidable. Et généralement, elles sont faites pour défendre les plus faibles, au détriment des plus forts. Et je trouve qu'il suffit qu'il y ait une personne qui ait subi une injustice énorme pour qu'on fasse une loi pour que même la minorité ne subisse plus des injustices. Mais là, le mot règle n'est pas pris dans ce sens-là. Là, c'est du cynisme. C'est la même chose que quand ils disent « vous n'êtes plus compétitif ». C'est un mot qu'ils ont inventé. « J'applique les règles de ce monde ». Non, c'est pas une règle de mettre 100 personnes sur le carreau pour délocaliser une industrie pour que les actionnaires gagnent plus d'argent. C'est pas une règle, c'est un fait. C'est une dérive. Et ça commence par vous nous aviez donné votre parole et vous la tenez pas. Nous, on la tient. C'est là-dessus que ça commence. C'est là-dessus la trahison, sur la trahison, sur le fait qu'une parole n'a pas été tenue. Après, on demande à des ouvriers, à des salariés, mais ça a été le cas. Il y a pas un élément dans le film qui n'est pas vrai. Tout a été incroyablement vérifié, tout est incroyablement argumenté, documenté. C'est des gens, des salariés à qui on a demandé de faire un effort incroyable sur un 13e mois, sur leurs primes, sur des heures supplémentaires, sur des remises de salaire. En échange, l'entreprise leur promet de conserver leur travail. Pas à vie. Pendant 5 ans, je sais pas si vous imaginez, 5 ans. Donc pour un homme de 30 ans ou pour une femme de 35 ans, 5 ans c'est rien. C'est arrivé à 40 ans, c'est à la moitié de sa vie. Et tout d'un coup, l'entreprise décide de fermer au bout de 2 ans, comme ça, du jour au lendemain. Et j'ai appris dans le film des choses que je savais un peu de loin, mais qu'une entreprise peut fermer quand elle le décide. On peut fermer une entreprise quand on le décide. On peut aussi refuser que tout acquéreur potentiel se présente, ou en tout cas on peut refuser de lui vendre, et tout ça avec des aides de l'État. Et que le ministre du Travail, ou le Premier ministre, ou le ministre de ce que vous voulez, peut se faire refuser de se faire prendre au téléphone par un patron d'entreprise. Il a la loi avec lui, la loi française, que ces mêmes politiques ont mis en place.
Vous n'arrêtez pas de dire le président de la République ceci, le président de la République cela. Je suis désolé, moi tout ce que je vois c'est que ça fait un mois qu'on a arrêté le boulot, là, et on s'est fait mettre par tout le monde.
Non mais attendez,
par tout le monde.
Non, là, vous, monsieur Amédéo, là, excusez-moi, là on pourrait très bien considérer que l'affaire est perdue. C'est pas ce qu'on fait, parce qu'en se mouillant et en prenant les responsabilités qu'on prend, on s'expose. On s'expose vis-à-vis de tout le monde, y compris vis-à-vis de vous. Alors, monsieur Amédéo, je vous permets pas de dire ça.
Moi, je me permets parce que je crois que vous ne vous rendez pas compte de l'état dans lequel...
Monsieur Amédéo, je me rends parfaitement compte, c'est la raison pour laquelle je suis ici. D'abord, ne vous trompez pas d'adversaire.
Nous sommes
avec vous pour vous soutenir dans votre démarche. Et deuxième chose, encore une fois, j'apporte notre soutien. Si vous ne voulez pas de notre soutien, nous on se retire.
L'impuissance de l'État, vous venez de la souligner, Vincent Lindon,
pas du toujours.
Politique... face au marché, du public aussi, face au privé, face à cette liberté d'entreprendre, donc d'ouvrir des entreprises et des usines, comme d'en fermer. L'État ne peut pas tout, ça c'est ce que déplore le conseiller représentant de l'Élysée qui s'offre en médiateur du conflit qui oppose les salariés à la firme allemande. Mais l'État a un devoir moral. C'est le plaidoyer de l'avocate qui vous défend, qui défend les syndicalistes de l'usine. Je voudrais juste vous poser une question plutôt de cinéma en vous mettant à la place du spectateur. Oui. Stéphane Brisset, qui parle beaucoup de l'importance pour lui de la dramaturgie dans ses films. Ici, elle semble presque naturelle, elle est dictée par l'extérieur, par la situation, par ce conflit social. Mais ça fait pas un film pour autant, Vincent Lindon. Pour ça, il faut un regard. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus pour vous, Stéphane Brisset, sur ce film, sur cette histoire?
Alors, je suis très content de vous poser la question, parce que au fur et à mesure des interviews, on parle beaucoup d'ouvriers, de syndicalistes, d'actionnaires, d'avocats, d'experts, de DRH, de toutes ces choses-là, et d'ouverture et de fermeture d'entreprise. Mais on est à Cannes déjà, donc déjà on est à l'endroit le plus fascinant et le plus incroyable et le plus grand projecteur du monde de cinéma. Donc c'est un film de cinéma qui a été tourné en scope avec un acteur professionnel, même si autour c'est des acteurs non professionnels, il y a un acteur professionnel. Donc je suis tout d'un coup le garant du fait que c'est une fiction. C'est très 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 écrit, le scénario de Stéphane. Ça donne l'impression que c'est comme ça, pris sur le vif, comme c'était un documentaire, comme si on avait posé des caméras à des endroits qu'on les avait mis en marche éternellement pendant des jours et des jours, et qu'elles avaient attrapé et happé ce qui se passe. Mais en fait, c'est un scénario qui est extrêmement précis, avec des mots et des phrases à dire, des raisonnements. C'est une fiction. Il y a un héros, il y a un homme qui, au départ, n'est pas prédestiné à devenir ce rassembleur, ce fédérateur, ce meneur d'hommes, qui tout d'un coup se révèle à l'âge de 55 ans, à 3 ans ou 4 ans de la retraite, se révèle, tout d'un coup quelque chose de lui sort, et il s'aperçoit en fait quasiment en direct, en prenant la parole dans des comités et dans des réunions, qu'il est écouté, que sa voix, que son regard, que sa façon de bouger, que sa façon de prendre les choses opère bien. Et c'est comme si il s'aimait se découvrant tout d'un coup, prenant une importance de leader, qui est une chose extrêmement, extrêmement galvanisante pour quelqu'un dans une entreprise. Tout d'un coup, d'emmener des foules, de haranguer les foules et d'essayer de défendre ses camarades. Donc c'est aussi quelque chose de cinéma, il y a une épopée dans le film. Il y a un enjeu, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. C'est pas juste un combat social, c'est une usine prise à un moment précis, avec des arguments de chaque côté, et qu'on suit au fur et à mesure. Et surtout, il n'y a pas de parti pris. Moi, ce que j'aime dans les films qui m'intéressent, c'est quand il n'y a pas de parti pris. C'est quand un film ne donne pas d'ordre. Il vous dit pas ce qu'il faut penser, pas ce qu'il faut pas penser. Les gentils, les pas gentils, eux, ils ont raison, eux, ils ont tort. Même quand c'est fait d'une manière incroyablement intelligente et souterraine, où on essaye d'influer sur les spectateurs. Là, moi, je me suis piqué en lisant le scénario et en revoyant le film, chaque fois qu'un individu prend la parole. De quelque bord qu'il soit, que ce soit un syndicaliste, ou un membre du patronat, ou le patron de l'usine, ou un DRH, ou un avocat, ou le conseiller spécial social de l'Élysée, à chaque fois que les gens parlent, j'ai tendance à me dire, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit.
Il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord autour de cette table, c'est qu'on regrette tous la fermeture du site. Après, la réalité du marché, elle est extrêmement dure. Ni vous, ni moi, n'y pouvons
mais moi, ce que je vois, chose. Oui, mais moi, ce que je vois, ce qu'on voit tous ici, c'est qu'on passe un accord avec la direction ou pas, c'est exactement pareil.
Mais monsieur Amédéo...
Exactement pareil.
Ah, mais non.
Si. C'est pareil, parce que quand ça vous arrange plus, non, quand c'est fini, Amédéo. Quand non, ça vous arrange plus et quand c'est fini, il n'y a plus d'accord. C'est pareil.
Alors que vous avez encore récemment beaucoup joué de rôles où l'intensité passait d'abord par le regard et par les mains, qu'on pense à Rosin que vous avez incarné récemment, qu'on pense à votre rôle de maçon dans Mademoiselle Chambon. Cette fois-ci, les mains sont un peu plus en retrait et la parole, la voix passe devant.
Oui, c'est ce que Stéphane voulait. Il voulait que, pour une fois, il trouve que je me sers beaucoup de la parole dans la vie. Et il a essayé de prendre des choses pour ce personnage de moi, qui est mon côté d'ailleurs, j'adore rassembler, j'adore organiser, j'adore convaincre. Moi, j'aime convaincre et j'aime parler et discuter. C'est mon hobby. Ce qui m'intéresse le plus au monde, c'est les gens. C'est parler, boire des apéros, parler avec les gens. Il a voulu se servir de la parole parce que la parole, c'est une très, très grande arme. Une parole bien utilisée, c'est irrésistible. Et dans un sens et dans l'autre. On peut faire des choses énormes avec la parole. Moi, j'adore ça, les mots, et Stéphane aussi. Donc, c'est quelqu'un qui harangue, qui bouge les limites et avec les mots. On sent qu'il est celui qui manie le mieux le verbe dans toute l'usine. Comme il y a à l'école, comme il y a partout.
Mais ça, vous l'avez toujours été dans la vie.
Toujours.
Vous étiez le délégué de classe. Vous avez toujours pris la parole.
À la maison même, les frères qui disent non, mais vas-y, va parler à maman.
Ça, toi, c'était vous.
Ouais, toi, tu vas te démerder, tu vas arriver à l'embobiner. Oui, c'est comme ça. J'aime ça, j'aime cette fonction, elle me plaît.
Donc, ça a été facile de l'incarner.
Non, parce que très bizarrement, les choses les plus compliquées à incarner sont les choses qui vous ressemblent le plus. C'est bien le métier d'acteur, c'est quoi? On est plein de gens, on est un pilote d'hélicoptère, on est docteur, on est journaliste, on est chirurgien, on est avocat. c'est parce qu'on n'a pas envie de montrer quelque chose de soi. On se cache, on se déguise, ça s'appelle se déguiser. Donc, mettre son vrai caractère au cinéma, c'est une mise en abîme. Ça a l'air simple, parce qu'on sait comment manier l'outil, mais c'est compliqué parce que, tout d'un coup, on est à vue. On a les bras écartés, la chemise au vent, et on est prêt à prendre les balles. Et donc, c'était pas facile du tout de me ressembler autant en étant quelqu'un qui est complètement différent et loin de moi.
Ne nous désolidarisons pas, répétez après moi. C'est pas facile à dire, c'est un mantra presque du film. Cette idée ou cette loi de la jungle du diviser pour mieux régner se retrouve dans ce conflit, Vincent Lindon. C'est un syndicalisme radical jusqu'au boutiste, celui de la CGT que votre personnage incarne, dont il est un représentant. Et puis à côté de ça, un autre syndicalisme plus réformiste, un peu à l'image de la CFDT qui n'est jamais nommée, qui vote pour le compromis contre le blocage. En guerre, c'est aussi un portrait à la fois héroïque et assez cruel du syndicalisme français, de sa faiblesse structurelle aujourd'hui, de ses divisions. Ça interroge aussi la place des corps intermédiaires dans notre société. Vous pensez-vous que le syndicalisme a vécu quelque part, que l'époque l'a tué ?
Non, je pense pas ça. Je pense que le syndicalisme, comme beaucoup d'autres choses dans la vie, les gens font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent. Il y a des gens qui sont plus durs à la douleur que d'autres. Il y a des gens qui peuvent aller plus loin que d'autres. C'est pas du tout une question de CGT, CFDT, FO. J'en suis pas là du tout. Mais c'est vrai que dans ce film, à un moment, oui, il y a deux groupes qui scindent. Moi, je suis celui qui veut tenir. Et en face, et je suis confronté à deux de mes collègues qui étaient mes meilleurs amis du monde et qui, tout d'un coup, veulent s'arrêter. Et leurs arguments tiennent debout. Ils tiennent debout. C'est ça qui est génial dans ce film. C'est que on se dit pas tout d'un coup dans le film... Oh, eux, ils ont tort, ils sont nuls. Et Laurent Amédéo, mon personnage, il a raison. C'est que même moi, en les écoutant, je me dis, mais ils ont raison, ce qui m'explique. Tient debout, ça tient debout. Leur envie d'abandonner tient debout. Mais moi, il faut pas que j'écoute ça. Faut que je me ferme les oreilles, je mette des oreillettes et que je n'écoute pas ce qu'ils me disent. Sinon, un peu plus, je vais me faire... Je vais me faire emporter par le courant. C'est ça l'histoire de la vie. C'est celui qui tient un petit peu plus qu'un autre.
Le film est assez marqué aussi, Vincent Lindon, par la présence des micros et des caméras. On voit qu'un conflit social, c'est aussi un rapport de force médiatique. C'est ce qui se passe en ce moment avec la grève SNCF. On ne peut plus aujourd'hui imaginer gagner une guerre sociale comme celle-là sans gagner aussi la bataille de l'opinion. On est vraiment dans une période où les médias sont remis en cause dans leur crédibilité, leur légitimité. Qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique ?
Alors trois choses. D'abord, c'est pas du tout un film qui parle des médias. Ils sont là parce que vous êtes là. Quand il y a un conflit social, immédiatement, les caméras télévision et les radios arrivent.
Et heureusement.
Mais donc, comme elles arrivent et que Stéphane Brisé veut faire un film vrai et au cœur de ce qui se passe et qu'on ait l'impression qu'on est vraiment dans un conflit social, il n'est même pas question de faire ce film sans filmer l'arrivée des médias et même passer par l'intermédiaire de vue, de prise de vue, prise à travers un axe médiatique, c'est-à-dire des reportages télévision, des radios qui viennent. C'est comme quelqu'un qui voudrait faire un film aujourd'hui où tout d'un coup, dans un restaurant, tout le monde fume. Ça n'est pas possible, on n'a plus le droit de fumer au restaurant. Eh ben, c'est une métaphore. À l'inverse, filmer un combat... Un combat d'ouvriers, une grève, un mouvement social sans y intégrer les médias, mais enfin, au bout de 10 minutes, le film ne tient pas la route.
En même temps, c'est extrêmement pervers, parce que sans les caméras, la lutte est invisible, donc la parole est muette, de ce combat est mort.
On est complètement d'accord.
Et en sens inverse, elle est là la perversité peut-être, c'est que dans cette société du tout-image, cette société du spectacle, il faut produire de l'image, aussi pour ces syndicalistes que vous incarnez. Et ça pousse à la surenchère, d'une certaine manière.
Ça pousse à la surenchère, ça pousse à la starification. On est rentré dans une époque où les grands leaders, que ça soit au moment de Florange, que ça soit au moment des Conti, les grands leaders deviennent des icônes, des figures symboliques, je pense à Xavier Mathieu, des stars, à leur manière, parce qu'ils ont, ils sont l'emblème d'un combat. Il y a une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'haranguer les hommes politiques, une nouvelle façon familière de les tutoyer, de leur dire, bah, viens, viens, viens ici, même, je t'attends, on t'attend, on t'attend. Et en fait, c'est une danse qu'on danse à deux. Mais je voulais juste, répondre à une question que vous m'avez pas posée, mais qui est très importante. C'est la genèse du film. Il y a eu un moment, ces images qui ont tourné en boucle, en boucle, en boucle, de ce DRH, de Air France
qui se faisait arracher
sa chemise. D'abord c'est extrêmement violent pour ce DRH et c'est un moment qui a été d'un traumatisme terrible pour lui. Et lui aussi, c'est un employé, lui aussi c'est un travailleur, lui aussi c'est quelqu'un qui a un travail à faire, qui a une famille à nourrir, et il ne se lève pas le matin en se disant, bon, tiens, aujourd'hui, je vais bien me marrer, je vais mettre 100, 150, 200, 300, 600 personnes à la porte. Ça n'est pas cynique. C'est son travail. Il y a des gens au-dessus, et au-dessus de ces gens, il y a encore des gens au-dessus. Mais Stéphane, un jour, voyant cette image qui tourne en boucle pendant indéfiniment, m'a dit, elle est intéressante, et un jour, peut-être, je ferai un film sur ce cadre, sur ces gens-là, sur ce qu'ils vivent, sur la violence au travail de aussi ces gens-là, parce qu'ils vivent des choses terribles. On les pousse à faire des choses qui sont pas forcément ce qu'ils ont au fond de leur tripe et de leur cœur, mais c'est leur travail, c'est leur fonction. Mais il me disait, moi je voudrais faire un film sur qu'est-ce qu'il a fallu faire à des gens pour en arriver là. Moi c'est ça qui me fascine, Vincent. Je veux savoir jusque où on doit pousser l'humain, un salarié, dans ses retranchements, pour que tout d'un coup, ils perdent la boule, en groupe, et que tout d'un coup, ils perdent leur sang-froid et qu'ils agressent ce DRH. Et je crois que c'est ça qu'il a réussi, c'est montrer tout. Mais comme un thriller. C'est-à-dire que c'est passionnant. C'est pas du tout... j'ai rarement vu autant d'intérêt dans les affrontements entre groupes. C'est ça qu'il voulait faire comme film.
Un jour, je voudrais faire un film sur ce sujet. Ce film, il l'a fait. Et ce film est aujourd'hui à Cannes. Et ce film est aujourd'hui dans les salles partout en France. Merci beaucoup, Vincent Landon.
Mais je vous en prie.
Merci.
Merci.
À suivre dans la deuxième partie de la Grande Table, Black is Beautiful avec l'actrice Aïssa Maïga, le réalisateur américain de Black Panther, Ryan Coogler, et la séquence des critiques menée par Michel Simon.